Vous écoutez
RMC. RMC, 19h-20h, Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission de radio incontournable pour tous les passionnés de sport, c'est bien évidemment Bartoli Time. Vous avez pris l'habitude désormais car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous suivre, à nous podcaster. On vous en remercie vraiment du fond du cœur. Nous plongeons comme d'habitude au cœur de l'action pour vous faire vivre les exploits du week-end, vous faire vivre ce match absolument incroyable entre la France et l'Angleterre. Nous reviendrons dessus avec le président de la Fédération française de rugby, Florian Grill, et puis bien sûr l'analyse aussi du match de foot entre l'OM et Rennes qui vient de se terminer et puis celui qui va venir entre le PSG et Montpellier. Bref, beaucoup de discussions passionnantes, des interviews exclusives, et j'accueille tout de suite mon acolyte, mon compère, celui avec qui peut-être même cette émission éventuellement n'existerait pas. C'est bien évidemment Jean-Christophe Drouet. Bonsoir JC.
Bonsoir Marion, bonsoir à tous. Je précise à tous les auditeurs, tu n'es pas à Paris, tu n'es pas dans notre studio. Tu es où actuellement, cher Marion ?
Je suis à Dublin. Je suis là où le pays où ils ont gagné ce tournoi destination.
D'accord. T'es allé fêter.
Je suis chez l'ennemi.
Oui, c'est ça. T'es allé fêter la victoire avec eux. C'est pour ça que t'es à Dublin ?
Non, je suis là pour un tournoi de tennis, mais c'est rigolo parce que c'est la fête de Saint-Patrick.
Exactement.
Donc, je les vois tous habillés en vert depuis ce matin avec plein de jolis colliers, des petites choses sur la tête pour se déguiser, se décorer. Enfin bref,
franchement,
toute une ambiance.
Non, mais l'Irlande, c'est magnifique. Dublin, c'est magnifique. Et en plus, y aller le jour de la Saint-Patrick. Franchement, tu as choisi ton week-end. Bravo, ma chère Marion. Et avec toi, nous avons beaucoup de choses à proposer à nos auditeurs. Tu le disais, dans quelques instants, nous allons débriefer la défaite de l'OM à Rennes. 2-0, ça vient de se passer. Appelez-nous au 32-16, supporters marseillais et supporters rennais. 19h20, l'événement ce soir dans Bartoli Time. C'est donc Florian Grill, le président de la Fédération française de rugby, qui sera ton invité pour parler du tournoi Destination. Et puis 19h45, Bartoli Baston avec Jean-Louis Tour, Montpellier PSG ce soir en Ligue 1. Et il y a Barcelone en Ligue des Champions dans 3 semaines, aller en finale.
Est-ce que ce serait
un exploit pour les Parisiens, pour toi Marion? C'est oui. Et pour Jean-Louis, c'est non. N'hésitez pas à venir échanger avec nous dans cette émission. Je le disais, le 32-16. Justement, Marion, je parlais de Barcelone, de PSG Barcelone. Sur RMC, on vous propose un magnifique jeu, bien sûr.
Oh, ben voilà.
On vous propose de vivre l'expérience RMC pour le quart de finale aller au Parc des Princes. La visite des studios, vivre le match au Parc des Princes, assister au débrief de la rencontre dans l'after foot. Dès que vous entendez dans cette émission ce signal. C'est un essai, c'est pas maintenant. Mais dès que vous entendez ça, vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. Gagnez vos places pour PSG Barcelone. Ça se passe uniquement sur RMC et ce soir.
Surtout foncez, jouez. Ne pensez pas que ça arrive qu'aux autres, ça peut vous arriver à vous.
Exactement, tu as bien raison, Marion. Allez tout de suite, la rechute de l'OM.
Les petits pas, Bourigeau face à Paul Lopez. C'est encore un contre-pied parfait. Et ça fait 2-0 pour Benjamin Bourigeau, évidemment, qui va célébrer comme un roi. Face au COP qui exulte évidemment, monté sur les panneaux publicitaires, les bras en croix, 2-0 pour Rennes.
RMC, la une de Bartoli Time.
Oui Marion, c'est la première vraie défaite de Jean-Louis Gasset. Il y a eu celle cette semaine en Ligue Europa, mais qui n'a pas eu d'incidence. 3-1, défaite 3-1 à Villarreal. Et donc cette défaite 2-0 face à Rennes, après 5 matchs avec que des victoires pour Jean-Louis Gasset. C'est la première défaite qui compte, j'ai envie de dire. L'OM reste 7e de la Ligue 1 avec 39 points. Et 8e, Rennes revient également avec 39 points. Ton analyse, Marion, de cette rencontre, quand tu as vu, notamment toi qui es Marseillais, cette défaite de l'Olympique de Marseille. Et Noah nous attend au 32-16 dans quelques instants. D'abord, avec toi, Marion, cette défaite de l'OM. Est-ce que c'est inquiétant, cette rechute ?
Écoute, j'ai trouvé le niveau technique du match assez faible. J'ai trouvé effectivement les joueurs de l'OM fatigués. Je pense que l'enchaînement des matchs, à 2 matchs par semaine entre la Ligue Europa et la Ligue 1, ça commence à leur peser. On a parlé très souvent de l'effectif qui est quand même assez court. On en parlait d'ailleurs depuis le début de la saison, même avec Jean-Louis. Et je pense qu'ils vont être en train et sont en train de le payer, surtout avec le calendrier qui va arriver où tu as quand même en Ligue 1 que des cadors à jouer avec PSG, Lille et Nice. Et puis bien sûr, en intercalant le quart de finale de l'Europa League contre Benfica, donc ça va être extrêmement compliqué à gérer. Ce manque de jus physique, je trouve que ça s'est vraiment vu dans leur manque de créativité au niveau du jeu. Il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient mises en place et du coup effectivement Rennes, même si sur les matchs précédents ils se sont malheureusement pour eux fait reprendre au score dans les dernières minutes, surtout en particulier ce match contre Lille, là Marseille les a jamais mis en danger, donc ils ont pu tranquillement dérouler tout leur football. Après Rennes a joué, j'ai trouvé, avec une équipe équipe très offensive en alignant quasiment 5 offensives d'entrée avec Martin Terrier, avec Oli Mwendo, avec Joe, avec Guiri, avec Blas. Donc je pense qu'ils avaient vraiment à cœur de prendre justement Marseille à la gorge en ayant conscience de cette fatigue physique qui allait arriver. Donc Julien Stéphan effectivement a fait un très bon travail de coaching. J'ai trouvé franchement moi par contre l'attitude de Popège à devenir sur le point de pénalty, piétiner le point de pénalty, j'ai trouvé ça complètement ridicule, pas du tout nécessaire. Il y a pénalty, il n'y a pas besoin de venir envenimer les choses et de venir entre guillemets titiller l'adversaire comme ça. Donc franchement, j'ai pas compris son attitude. Pour le reste des joueurs qui sont effectivement fatigués, ça peut parfaitement se comprendre. Moi après, ça remet pas du tout pour moi en cause ce qu'a fait Jean-Louis Gasset jusqu'à maintenant, où il était capable quand même de prendre une équipe où on voyait plus rien, où c'était le noir absolu, à redonner de la vie, redonner de la lumière et redonner de l'enthousiasme. Donc ça, on ne pourra jamais lui enlever. Mais effectivement, là, cet enchaînement-là, ils ont eu du mal à le réaliser, surtout encore une fois, c'est en termes de fraîcheur physique.
Oui, Marion, tu parlais du calendrier. Je vais le redonner pour tous les auditeurs qui sont avec nous. Un calendrier démentiel. Là, il y a la trêve internationale qui, on l'espère, pour ceux qui ne sont pas sélectionnés avec leur pays, eh bien, ça va permettre
de souffler un peu,
parce qu'après, il faut affronter le Paris Saint-Germain, il faudra aller à Lille, il faudra aller à Benfica, il faudra recevoir Nice et il faudra recevoir Benfica. Ça fait 5 matchs à haut risque pour l'Olympique de Marseille, certainement là où ça va se décider un peu plus pour les Olympiens. Noah nous appelle, supporter de l'OM, il veut te parler. Salut Noah.
Salut Marion, salut Jean-Christophe.
Salut Noah, comment vas-tu?
Bon, j'allais dire que ça va très bien, mais ça allait très bien avant ce match.
Dégoûté du match?
Je pense que comme toi, je suis déçu, on a vu une bouillie technique. Et par contre, moi je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur le fait que les joueurs soient fatigués ou non. J'ai vu en tout cas Benjamin Brugeot les mains sur les hanches, tout rouge, en train de reprendre son souffle, et j'ai vu aucun Marseillais comme ça. Moi je pense que c'est pas à mettre sur le compte de la fatigue, parce que même Moumbagna rate ses actions. Et puis finalement il y a eu tellement de mauvais choix que c'est pas la fatigue qui fait qu'il y a tant de mauvais choix, que Sarr rate autant son match.
Ouais, pour toi, c'est un match sans
Noir. Non, mais de toute façon, Marion, je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, il y a une pauvreté technique qui était affligeante. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, quand tu commences à enchaîner beaucoup, et on a vu quand même que sur les mois précédents, tu t'enchaînais pas beaucoup et surtout pas beaucoup de victoires. À un moment donné, t'as quand même un petit contre-coup. Après, je dis pas que toute la défaite est due à ça. Je l'ai vraiment dit d'entrée dans mon analyse. Pour moi, leur faiblesse, c'est qu'ils sont complètement passés à côté de ce match. Là, je suis complètement d'accord avec toi. Mais je pense que il y a eu quand même un manque de relance à un moment donné, un manque d'activité de la part de l'OM qu'on n'avait plus vu justement sous Jean-Louis Gasset. C'est ça qui m'a surpris. Donc moi, je l'explique par effectivement un peu de fatigue. Peut-être qu'il y a une autre explication. Peut-être simplement ils se sont relâchés parce qu'effectivement, il y avait une bonne dynamique. Ils sont qualifiés pour l'Europa League et que du coup, il y a un relâchement aussi mental, certainement. Mais j'ai trouvé effectivement, même sur le premier but, tu vois, l'enchaînement de Martin Terrier, il est beau, mais il n'y a pas un Marseillais à 1m50 de lui. Donc il le laisse complètement contrôler et reprendre son tire sans même avoir une pression défensive sur lui. Donc à quoi c'est dû, ça c'est effectivement de l'extérieur, c'est pas évident forcément tout le temps analyser, mais il va falloir se reprendre et vite.
Évidemment, si il y a la première réaction de Jean-Louis Gasset, vous l'entendrez dans cette émission en conférence de presse, on suit tout ça en régie. Noah, une explication, en tout cas une question d'explication, j'essaye de comprendre ce match de l'Olympique de Marseille. Est-ce que le fait de s'être fait peur comme ça à Villarreal, perdre 3-0, finalement réussir à se qualifier, est-ce que ça a joué aujourd'hui ou pas du tout?
Moi, je pense pas du tout que ce soit ça. Je pense pas que ça leur ait fait peur, parce que là, moi, je pense que la principale cause du fait qu'on se soit fait peur à Villarreal, c'est le système et l'animation, qu'on ait autant de joueurs derrière. Là, ça n'a pas été reconduit. La principale cause, c'est juste que les joueurs ont été au niveau qu'ils avaient avec Gattuso, avec Marcelino, et en fait, on se rend compte que sur certains matchs, même si les deux entraîneurs précédents étaient mauvais, très mauvais, les joueurs n'étaient pas non plus, étaient très loin d'être au niveau. La faute était très, très partagée, en tout cas. Enfin, je sais pas si on peut dire très pour partager, mais c'était largement du 50-50.
Ok, donc pour toi, en tout cas, le niveau des joueurs olympiens et le niveau de cette équipe, il est toujours en suspens. On se pose toujours la question. Merci beaucoup, Noah, d'avoir composé le 32-16 et d'être venu avec Marion pour débriefer cette rencontre. Moka nous appelle également, supporter de l'OM. Bonjour Moka, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, analyse Moka, après cette défaite?
Moi, mon analyse, c'est que il fallait s'y attendre. On a fait 4 ou 5 matchs de haute intensité, c'est vrai, avec l'effet du nouvel entraîneur. Mais l'effectif, il est limité. on va pas se mentir, il est très 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 limité. Aujourd'hui, par exemple, bon, on peut pas dire que l'équipe n'a pas essayé, mais malheureusement, ça, c'est sur des détails qu'on perd. On perd 2-0 alors que Mbagna manque le 1-1. Meite qui fait une faute très évitable, mais bon, après c'est le niveau des joueurs qu'on a recrutés. Moi, je pense que cette défaite, elle est totalement pour Longoria, parce que à un moment donné, c'est bien beau de sortir quelques joueurs qu'on a relancés et qui se sont adaptés, qui ont fait une bonne saison, mais il faut dire que la plupart des joueurs qu'il a achetés, bah, c'est un échec. Alors beaucoup vont dire oui, c'est par rapport au budget qui est pas assez grand donné par McCourt, mais je suis désolé, en France il y a beaucoup de très bons recruteurs français qui recrutent des bons joueurs dans des équipes comme Rennes, comme Nice, il y a des bons joueurs comme Lille, et je comprends pas qu'à Marseille on est obligé d'aller chercher un joueur en Belgique, un joueur en Suisse, en se disant que ce sont des espoirs. Alors qu'ils n'ont pas le niveau de ce club. En fait.
Marion, je te coupe Moka, mais Marion, on a l'impression qu'à chaque défaite de l'OM, ça y est, on retourne sur le début de saison, sur le recrutement, non, sur Pablo Longoria.
Encore une fois, je l'ai dit dans mon analyse aussi, le manque de banc, le manque de pouvoir faire tourner un effectif, de pouvoir se reposer. Il y a des joueurs qui ont été achetés au mercato estival parce qu'ils avaient fait une grosse Coupe du Monde, qui ne performent pas du tout. Mehdi Benat, qui d'ailleurs s'en est pas caché dans la presse aussi. Article a été fait sur AMC justement sur le fait qu'il y a certains joueurs où il est pas du tout en accord avec leur comportement, que ça soit en match ou à l'entraînement, et ça fait forcément un ressenti sur l'équipe qui est important, parce que t'as un enchaînement de matchs comme ça qui est à haute intensité, puis surtout moi je trouve que contre Villarreal ils se sont fait extrêmement peur et qu'ils s'en sortent. T'as besoin le dimanche, effectivement, trois jours plus tard, de pouvoir peut-être souffler un peu et de mettre une autre équipe et que ça tourne. Et là le problème, c'est que t'as aucune marge. C'est ça la réalité, c'est que t'es obligé d'avoir ton 11 de base qui fonctionne à plein régime, t'es obligé d'avoir un Pierre-Emerick Aubameyang qui soit à plein régime aussi, pour que l'équipe effectivement commence à tourner, reprendre confiance et que ça s'engrange. Aubameyang, il tire sur le poteau aujourd'hui. Si peut-être effectivement ce but-là il rentre, il y a peut-être une autre physionomie du match. Mais tu peux pas compter comme ça que sur un joueur. Et ça, c'est une réalité depuis le début de la saison. Et effectivement, quand ça tourne en la faveur de l'OM, bon ben on l'esquive un tout petit peu. Mais c'est la réalité. On peut pas l'occulter complètement non plus. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et malheureusement, ça va jouer des tours, je pense, dans les parties de calendrier où il va y avoir des énormes matchs à jouer pour arriver à aller chercher une place européenne.
Et ça arrive. Hein. Je le disais après la international, ce sera direct le Paris Saint-Germain au stade Vélodrome. Merci beaucoup Moka d'avoir composé le 32-16, d'être venu pour débriefer cette défaite.
Merci
donc de l'Olympique
beaucoup,
de Marseille, 2-0 face à Rennes. Et évidemment, je vous le rappelle, si Jean-Louis Gasset arrive en conférence de presse durant cette émission, vous l'écouterez en direct, vous écouterez un extrait. Pour tout savoir sur cette défaite, allez sur rmcsport.fr. On se retrouve dans quelques instants, Marion, avec notre Absolument. Invité. C'est l'événement, c'est Florian Grill, le président de la Fédération française de rugby, qui ne s'était pas encore exprimé sur ce tournoi destination. Et bien, il va faire le bilan avec nous dans quelques instants, et après cette magnifique victoire face à l'Angleterre hier à Lyon. À tout de suite sur RMC avec Marion Bartoli et donc avec Florian Grill. À tout de suite.
RMC Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet,
Marion Bartoli. 19h20 de retour dans Bartoli Time sur RMC. Nous avons débriefé le match de l'OM. Maintenant, nous allons débriefer ce fameux tournoi de nation, n'est-ce pas, mon JC?
C'est exactement avec Florian Grill que nous allons accueillir dans quelques instants. Juste vous donner le reste du programme dans une vingtaine de minutes. Restez bien avec nous. Nous prendrons la direction de Montpellier. Avant Montpellier, Paris Saint-Germain ce soir. C'est pour clore la 26e journée de Ligue 1. C'est à 20h45, la grande soirée autour de Jean-Louis Tour, à partir de 20h sur RMC. Mais tout de suite, Marion, tu l'as dit, c'était hier, c'était beau, c'était sur RMC.
3, 2, 1. France-Angleterre 2024, c'est parti! Thomas Ramos, le départeur qui l'a profité coup.
Il va passer,
Léo Barré. Au 49, Léo Barré, le grand coup. Il a deux contre un. C'est là, il a gardé le ballon, Léo Barré, tout à l'heure peut-être. Il va y aller ou pas?
Ouais, c'est bien joué!
Magnifique! Et c'est de Garak à l'intérieur! Quel essai du Français! C'est Marcus Smith, il est sublime! Il est sublime, cet essai!
Magnifique essai de Smith!
C'est de folie, parce que c'est un compte sur les anglais.
C'est
Tommy Freeman
en bout de ligne, c'est bien joué.
C'est Tommy Freeman à la 75e.
Allez, il s'élance.
650 à son poteau. Ce ballon qui part,
ça part,
il y aura la distance.
Bien,
il y aura ce tir.
Oui,
ça part.
Maxime Lucu. Maxime Lucu.
Allez, on dégage. On dégage en touche.
C'est fini.
La victoire
des Bleus.
C'est fini.
On a gagné.
RMC Bartoli. À la folie.
Ah oui, un match d'anthologie, un coup de génie pour finir, les frissons encore en entendant nos commentateurs. Les Bleus sont passés par tous les états hier pour finalement s'imposer face à l'Angleterre. Une victoire qui permet au 15 de France de terminer deuxième du tournoi des Six Nations. Une place inespérée, c'est vrai, il y a encore une semaine. Notre commentateur est avec nous, la voix des Bleus sur RMC, oui. Wilfried Templier. Bonsoir Wilfried.
Ça va mieux. Bonsoir, Wilfried, c'est bon? T'as récupéré.
Ça va mieux, ouais. Ça va mieux. J'y sais, m'écoute le matin, il m'écoute le soir, il m'écoute en s'endormant peut-être.
Ah mais ça c'est sûr. Ah bah ce soir, ce soir je me refais.
Bon, je vais vous laisser tous les deux.
Tu pourras pas trop t'endormir avec ça, mais bon.
Non, reste Marion. Pour débriefer ce tournoi, Florian Grill, le président de la Fédé, l'invité de Marion Bartoli, un président qui n'est pas avec nous dans le studio RMC pour une fois, mais à quelques centaines de mètres au stade Jean Bouin, dans les tribunes pour la finale du tournoi B ce soir entre le Portugal et la Géorgie. Bonsoir Florian.
Bonsoir.
Bonsoir Florian, et merci infiniment d'accepter mon invitation. Comme l'a dit Jean-Christophe, vous êtes au stade Jean Bouin pour la finale de ce tournoi B. Alors après un match absolument incroyable, hallucinant, de rebondissement, de stress entre la France et l'Angleterre, vous étiez dans quel état? Franchement, président, au moment où Thomas Ramos s'élance pour tirer cette pénalty à limite de la fin, une pénalty de 50 mètres, vous l'avez vécu comment?
J'étais extatique, d'ailleurs merci d'avoir remis l'ambiance, parce que c'est une ambiance complètement folle dans ce stade de Lyon qui était absolument génial. On avait fait une grosse animation d'avant-match aussi, et je pense que le public a été incroyable toute la partie. On a vécu un moment de rugby qui restera dans les mémoires.
Alors, il y a eu énormément d'essais, on a entendu bien sûr Denis Charvet, Wilfried Templier s'enthousiasmer devant ces essais, mais il y a eu aussi que bas pendant ce match, mais les Bleus n'ont absolument rien lâché. Cette victoire qu'ils sont allés chercher au comme ça du suspense, est-ce que ça efface un petit peu le tournoi qui a été quand même assez compliqué pour eux?
Non, rien n'efface rien, mais d'une manière générale. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'était pas un tournoi facile après le choc de la Coupe du Monde, après avoir vécu ce moment intense de la Coupe du Monde. Et donc moi j'ai beaucoup aimé la transition humaine, l'intelligence humaine dans le management qu'il y a pu y avoir de la part de Fabien, de la part de l'ensemble du staff, de la part de Jean-Marc Lhermé qui travaille sur le haut niveau à mes côtés aussi. Voilà, on a pris notre temps, on a respecté les hommes. Et je pense que c'est ça qui est beau en fait dans cette histoire, c'est pas un tournoi facile, il faut rien effacer, mais on a respecté les hommes, on a pris son temps et on a construit quelque chose pour finalement finir deuxième. C'est un bon résultat.
Respecter les hommes, attention président, vous êtes en train de prendre les phrases et les mots de votre sélectionneur Fabien Galthié, hein.
Ah bah alors, je ne savais pas, je ne l'ai pas entendu
mais
parler
après ça. Pas, depuis deux semaines, il nous dit c'est les hommes, d'abord le cœur des hommes et tout ça.
Ouais, mais écoutez, je ne l'ai pas entendu, on ne s'est pas parlé, mais on pense vraiment la même chose. Je pense que, enfin en tout cas, moi c'est comme ça que j'ai ressenti son attitude dans les vestiaires après le premier choc face à l'Irlande. Voilà, je pense qu'il faut donner du temps au temps, il ne faut pas faire des embardés en management, ce n'est pas les bonnes stratégies. Je pense qu'il faut donner du temps au temps long et voilà, une équipe ça se construit et ça se respecte aussi.
Wilfried Templier avec le président Florian Grill.
Il est réussi ce tournoi, président?
Oui, et puis il est réussi d'un point de vue humain. Après, il y a bien sûr des matchs qui n'étaient pas satisfaisants du point de vue du contenu. Et puis après, il y a cette fin de tournoi qui est complètement folle, qui est d'ailleurs rend service au rugby, parce que c'est l'ensemble des matchs des deux derniers week-ends pour le tournoi Destination ont été complètement fous. Voilà, moi je pense que ça contribue à l'envie de rugby qu'il y a dans ce pays qui est considérable. On voit des taux de croissance partout, on voit la croissance aussi du rugby féminin. Là, je suis, vous avez parlé du match de la finale, mais je suis sur un Espagne-Roumanie en ce moment. Il y a du monde à Jean Bouin aussi, voilà, il y a envie de rugby dans ce pays.
On a beaucoup parlé du traumatisme du mondial, vous l'avez évoqué. On a vécu un match hier soir qui ressemblait un peu, de par le style de l'adversaire, l'Angleterre, un peu le style de l'Afrique du Sud. Et comme l'a dit Fabien Galthié, cette fois-ci, on a gagné. Est-ce que c'est enfin réglé cette question? Est-ce que le mondial est soldé? Ils vont passer à autre chose? Est-ce que vous pensez ça?
Bon, on soldera jamais le mondial, ça restera toujours dans un coin de notre tête. Mais après, oui, il faut pas ressasser le passé en permanence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. C'est la manière de préparer la suite. Là, il y a un tournoi féminin qui va démarrer. Ensuite, on a les Jeux Olympiques. Après, bien sûr, on a la Coupe du Monde 2027. On est en train de se mettre en ordre de marche pour tout ça. Il faut qu'on soit bon avec nos 13 équipes de France. Il faut qu'on soit bon sur le poids de la fédération internationale. Puis il faut qu'on en profite pour développer le rugby par la base, parce qu'en France, il n'y a pas assez de gens qui profitent du rugby, qui peuvent se transformer grâce au rugby. Il faut qu'on augmente le nombre de licenciés, et c'est une des stratégies de la fédération.
Alors on sent un président déjà en campagne. On parlera des élections un petit peu plus tard avec vous. Florian Grill est notre invité exceptionnel dans Bartoli Time pour débriefer ce tournoi Destination. Président, vu que vous n'avez pas vraiment entendu le sélectionneur, c'était hier en conférence de presse, parce qu'il évoque un mot assez dur pour évoquer ce tournoi si particulier pour lui.
On a vécu un tournoi d'enfer. C'était brûlant, il n'y avait pas de répit. On était tout le temps sur la brèche. On était parfois sur la cime. On était parfois sur la tranche. Il fallait être solide. Je parle des joueurs, je parle du staff. Parce qu'à un moment, il fallait que nous, on apporte aussi de la puissance. Quand on sentait que les gars, ils en manquaient un peu, qu'ils doutaient, qu'ils étaient un peu chahutés. Parce que si on les prend, on a envie de vivre des bons moments. On a vécu autre chose.
On a vécu un tournoi d'enfer, heureusement pas un tournoi en enfer. Est-ce que vous avez trouvé à ce moment-là, surtout après les trois premiers matchs, la presse, les suiveurs, trop durs avec ces Bleus ?
Non, mais la presse est dans son rôle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le président de la Fédération française de rugby que je suis, ou Jean-Marc Lhermé à mes côtés, nous on a voulu apporter de la sérénité, de l'apaisement dans un moment difficile pour les joueurs, difficile pour le staff. Et je pense que c'était notre responsabilité de le faire comme ça. Et on ne regrette pas cette manière de manager, mais qui nous correspond. C'est dans la vie, je pense qu'il faut être aligné. Et on est aligné avec nos principes de vie et nos manières d'être.
Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Vous parlez d'apaisement, justement, de sérénité. Qu'est-ce que vous avez fait ?
On a donné de la confiance. Enfin, moi, dès le premier match, il y a des gens qui m'ont dit il faut que Fabien Galthié parte, il faut que s'il parte, etc. Mais bien sûr que non, on ne prend pas des décisions comme ça à l'emporte-pièce. On n'avait pas décidé non plus de le conserver juste sur le résultat d'un match de quart de finale de Coupe du Monde. C'est pendant 6 mois, on a eu le temps de découvrir Fabien avec Jean-Marc, de voir la qualité du management, la manière dont il travaillait, et donc ça nous convient parfaitement. Et c'est pas le résultat d'un, deux ou trois matchs qui doivent tout changer. Donc voilà, c'est ça que j'appelle manager dans la durée. On n'est pas à réagir à l'emporte-pièce sur le premier coup dur. Au contraire, moi je pense que les difficultés construisent les victoires de demain. Tout le monde le sait bien, quand on est dans le rugby, il faut des moments difficiles pour construire des belles victoires demain.
Il faut faire le dos rond, et c'est vrai que Fabien Galthié l'a fait le dos rond, et il l'a dit après le troisième match. Il l'a reconnu lui-même en conférence de presse en disant que quand on est sélectionneur, sa position est forcément fragilisée. Est-ce qu'à un moment donné, ça vous a trotté dans la tête de vous dire
Non, pas du tout. Absolument, à aucun moment ça m'a trotté dans la tête, ni dans la tête de Jean-Marc. Je pense qu'on fait bloc avec l'équipe, avec les joueurs, avec le staff, et c'est comme ça que le rugby avance. Voilà.
Florian Grill avec nous, le président de la Fédé, Marion Bartoli avec Florian Grill.
Mais moi, j'ai une question qui m'intéresse énormément, parce qu'effectivement, vous avez parlé, et en tennis, c'est la même chose d'ailleurs, hein, au plus haut niveau, quand on parle des périodes plus compliquées en termes de résultats, généralement, on fait corps avec son équipe de coaching, et puis on arrive à redonner de la confiance, à repartir de l'avant. Après ce match nul contre l'Italie, où beaucoup même ont parlé de hold-up, puisque l'Italie a la possibilité éventuellement de battre la France sur la fin de ce match, vous êtes dit quoi entre vous, les joueurs, Fabien Galthié, les réunions en interne que vous avez eues, c'était quoi le maître mot ? Redonner de la confiance aux joueurs, mettre du calme, resserrer les rangs ? Comment vous avez géré ça ?
Alors, au quotidien, en toute humilité, c'est pas moi qui ai géré ça. Hein. C'était Fabien, c'était Jean-Marc, c'était l'ensemble du staff. Mais voilà, on s'est dit, on prendra le temps qu'il faut, mais on va y arriver. Et puis, je pense que les joueurs ont renvoyé beaucoup de confiance à Fabien, parce que l'attitude qui a été la sienne de pas exécuter les gens a été perçue comme la bonne par les joueurs, et ils l'ont dit, et je pense qu'ils ont bien fait de le dire et de le reconnaître, et je pense que c'est dans des moments charnières et un peu cruciaux comme ça qu'on fait les différences. Voilà, je suis vraiment persuadé de ça, et en serrant les coudes, on épaissit un peu la peau et on construit des équipes beaucoup plus fortes.
On a un commentateur avec nous qui s'appelle Wilfried Templier, et là vous êtes au stade. Est-ce que vous pouvez commenter ce que vous voyez ? Il y a eu un essai devant vous ou pas ?
Oui, à l'instant, l'Espagne vient de marquer devant la Roumanie 33-12. Voilà, pour la troisième place.
Il faut mettre un peu plus d'enthousiasme, président.
Il y a moins d'enthousiasme que Wilfried, président. Il va falloir faire un stage chez RMC, je crois.
Voilà, avec le jingle. Le score, s'il vous plaît,
Florian. On a mis le jingle. Comme ça, Florian, si à un moment donné les élections, on verra comment ça se passe, n'hésitez pas évidemment à commenter du match sur RMC.
La reconversion possible.
La boutade est terminée. Wilfried Templier.
Oui, on parle beaucoup de Fabien Galthié, président, parce qu'il cristallise beaucoup de choses. Il est symbolique, il est voilà, il représente beaucoup de choses à la tête de l'équipe de France. On a parlé aussi beaucoup de sa communication, en partant du jeu referé exactement la même chose après le quart de finale perdu, à le contenu est parfait en Écosse. On va l'entendre après, même s'il s'en expliquait. Est-ce que parfois ça vous arrive d'en discuter avec lui, parce qu'il est, d'une certaine manière, il représente aussi la Fédération française de rugby.
Oui, mais bien sûr qu'on en a parlé sur le contenu. D'ailleurs, il a un peu corrigé le tir après. Il a confirmé que quand il parlait de contenu, c'était en fait plutôt le contenu humain de la semaine qui avait été bon et pas le contenu du match. Donc,
du match, ouais.
Bien sûr qu'on en a parlé. On a parlé une petite heure ensemble au téléphone pour parler de ces choses-là. Voilà, c'est très clair. Bien sûr que personne n'est parfait. Il y a des points d'inflexion, il y a des points de correction en permanence. Et il en parle beaucoup avec Jean-Marc, un petit peu avec moi quand j'en ai le temps parce que j'ai pas mal d'autres sujets. Donc je pense que le rôle d'un président, c'est de savoir déléguer, de mettre les bonnes personnes au bon endroit. C'est le cas avec Jean-Marc Lhermé, c'est le cas avec Abdelatif Benazi qui bosse sur l'international, c'est le cas avec l'ensemble des équipes qui m'entourent. On est sur plein de chantiers à la fois et donc on se répartit un petit peu les rôles. Mais oui, bien sûr qu'on parle de ces choses-là.
Vous parlez de ces choses-là. Alors évidemment, vous n'entrez pas dans les détails, mais sur cette communication qui a souvent été critiquée, il faut se dire les choses aussi. Elle a été critiquée et il a su s'adapter. Qu'est-ce que vous avez pu lui dire ? Vous êtes le président, vous entendez Fabien Galthié qui parle de match parfait après l'Écosse. Vous avez envie de lui dire quoi ? Envie de lui dire, bon, faudrait peut-être faire différemment ?
Non, il a parlé d'un contenu parfait. Il parlait du contenu humain, pas du contenu du match. Il l'a corrigé après, dont acte. Voilà, parfait.
Rien de plus sur la communication de Fabien Galthié.
Non. Enfin, je pense que si. Après, on s'est dit aussi qu'il fallait qu'il parle un peu plus aux supporters aussi, parce que je pense que les supporters avaient envie de l'entendre indirectement. Mais voilà, je pense que. Vous savez, il y a tellement de détails à ce poste de manager du 15 de France. Il y a tellement de points, c'est tellement sous le feu des médias en permanence qu'il y a forcément des points d'amélioration tout le temps. Mais Fabien est un perfectionniste. Franchement, moi, je suis assez bluffé par le travail qu'il fait, par la manière dont il donne la parole à tout le monde. Les débriefings d'après-match, tout le monde parle. L'ensemble des membres du staff est appelé à donner son impression, à donner son avis sur la manière dont les choses sont passées. Moi, j'aime vraiment beaucoup le management que j'ai découvert au fur et à mesure et je suis très sensible à l'aspect managérial. Je m'implique pas sur le volet technique, j'ai pas la compétence qui est celle de Fabien ou qui est celle de Jean-Marc sur ce genre de sujet, mais je suis très attentif à la manière dont les gens managent et je pense qu'en termes de management, franchement, c'est du haut niveau.
Et ça vous a pas échappé qu'au début du tournoi, c'est vrai qu'il parlait de 80-90% du groupe qui pourrait aller en Australie en 2027 et qu'au final il y avait eu beaucoup de nouvelles têtes et beaucoup de fraîcheur. Il s'est adapté aussi Fabien sur ce coup-là.
Je pense que les grands managers s'adaptent en réel à la vérité de ce qu'ils rencontrent au jour le jour. Donc bien sûr qu'ils s'adaptent au fur et à mesure et il y a des inflexions qui sont faites au fur et à mesure. Et heureusement qu'on n'est pas dogmatique et qu'il n'y a pas une vision fermée et ad vitam pour toujours. Voilà.
Après les trois premiers matchs, vous avez vu les débats fleurir un peu partout, hein, notamment sur RMC. Est-ce que vous aussi, vous avez commencé à regretter l'absence d'Antoine Dupont ?
Pas du tout. Je pense qu'encore une fois, Antoine Dupont, il a décidé, il a eu envie, il a exprimé le besoin et l'envie et le rêve de faire les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et moi, on ne pouvait pas le lui refuser. Enfin, qui peut imaginer une seconde qu'on dise à un joueur comme ça, non, on t'interdit de faire les Jeux Olympiques et tu vas faire le tournoi des Six Nations. Enfin, ça tient pas la route. Donc, et puis bon, je pense que maintenant, l'affaire est close. J'ai envie de dire qu'il a démontré en deux tournois à quel point c'était formidable de l'avoir dans l'équipe. Ça aide d'ailleurs là aussi en termes de management, ça a été du grand art de la part de Jérôme Daré et du staff de l'équipe de France A7. Ils l'ont fait rentrer très progressivement dans l'équipe, il a gagné sa place. Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'intelligence managériale que j'ai pu ressentir là-dessus aussi. C'est du grand art parce qu'il n'est pas arrivé Deus ex machina, soudainement je suis Antoine Dupont, je vais vous montrer la vie. Bah, il est arrivé, il a gagné sa place, il la gagne progressivement.
Oh, il aura montré la vie quand même. Hein.
Ouais, mais peut-être, mais n'empêche que ça n'a pas été décrété, ça a été prouvé. Et je pense que maintenant personne ne doute de l'intérêt. Et puis franchement, je pense que le rugby français va bénéficier dans son ensemble de la médiatisation qu'on va avoir avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et puis quand on y sera, bah, tout le monde dira bah, finalement on a bien fait d'avoir Antoine Dupont.
Est-ce que, président, puisque Antoine Dupont doit revenir avec cette équipe de France après les JO, au mois de novembre, on a une tournée avec trois matchs, Japon, Nouvelle-Zélande, Argentine, est-il, Antoine Dupont, assuré de récupérer son capitanat, puisque l'intérim s'est fait Grégory Aldrit pendant le tournoi ?
Ça ne relève pas de ma décision, ça relève de la décision de Fabien.
Ça, c'est quelque chose que, voilà.
Sur bah, moi, je respecte, vous savez, moi, j'ai changé pas. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai des managers, je leur confie des responsabilités, ça s'appelle la délégation. Et j'ai pas vocation comme président à mettre un entraînement, à mettre un survêtement et à être au bord du terrain et à faire le boulot des autres.
Alors parlons des dossiers qui vous concernent, président. Florian Grill est avec nous, l'invité exceptionnel de Bartoli Time ce soir. Marion, tu voulais parler de ce match à Lyon et de ces matchs en province là qui ont eu lieu en raison des Jeux Olympiques. Donc le Stade de France n'a pas pu être occupé.
Absolument, président. Moi, j'aimerais revenir sur cet élément parce qu'on l'a entendu dans le sujet au début de Wilfried. Il y avait une ambiance absolument hallucinante et incroyable hier à Lyon. On a parlé souvent de délocaliser les matchs du 15 de France et j'ai l'impression que ça ferait du bien peut-être aux Français aussi d'en délocaliser plus, même si le Stade de France est disponible. Est-ce que vous allez dans ce sens? Antoine Lyon était hier présent dans les tribunes à Lyon également.
J'ai mal entendu votre question.
Vous allez pousser vers d'autres matchs en province?
Ouais, écoutez, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, les matchs au Stade de France nous permettent une économie plus rentable que les matchs en province. Il y a plus de jauge, il y a 80 000 places quand on n'a pas 80 000 places dans tous les matchs en province. Il y a plus d'hospitalité aussi, donc d'un point de vue économique, c'est plus rentable de jouer au Stade de France. Maintenant, l'écart s'est considérablement resserré. J'ai eu l'occasion de le dire aux concessionnaires qui se présentent pour la reprise du Stade de France. Et franchement, les matchs en province ont leur intérêt aussi. Je pense qu'en plus, si on devait en faire plus régulièrement, on pourrait les négocier plus intelligemment les conditions. Donc je ne m'interdis rien. Je l'ai dit, pour s'agissant du Stade de France, si les propositions qui nous sont faites ne sont pas suffisamment intéressantes, on n'hésitera pas à jouer en province, voire à trouver d'autres solutions. Il y a des gens qui m'ont parlé du Parc des Princes. Je trouve ça toujours intéressant, mais bon, il y a aussi le problème de jauge. Mais on peut imaginer de faire au moins un match délocalisé à l'étranger une fois par an. Enfin, voilà. Donc il faut qu'on ait des propositions vraiment intéressantes de la part des deux candidats au Stade de France pour continuer à jouer au Stade de France. Et donc les matchs en province, ouais. Oui, c'est possible.
Le Parc des Princes sera bientôt libre.
Oui.
Voilà. M'a-t-on dit.
Mais. Florian, est-ce que c'est pas un coup de canon en l'air aussi ça au moment de négocier avec des futurs acquéreurs du Stade de France et que est-ce que vous êtes vraiment sollicité en province parce que ça attire certainement économiquement l'équipe de France mais vous parliez que vous perdiez 2 millions d'euros par match en ne jouant pas au Stade de France.
Ça c'était avant oui. Depuis on a considérablement resserré là on va faire plus de 2 millions de recettes supplémentaires et même de résultats supplémentaires sur la billetterie sur l'ensemble de ce tournoi parce qu'on a beaucoup.
Donc il y a toujours un déficit ou finalement vous êtes à l'équilibre?
Non, on est en train de resserrer. Enfin, on a hérité d'un déficit très important et on est en train de faire notre boulot. On va faire 10 millions d'euros d'économies et 5 millions d'euros de recettes additionnelles. Et je peux vous dire que les choses sont en train de se mettre en place. Tout avance positivement et je pense qu'on va y arriver. Peut-être pas dès la première année, ça c'est certain, mais on est en train de remonter la pente très 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 vite avec beaucoup de bonnes décisions.
Juste, vous avez dit, j'y sais, je me permets, un match à l'étranger de l'équipe de France, parce qu'il y a un match, pas une sélection contre une sélection mondiale et des jeunes, un match à l'étranger de l'équipe de France, c'est possible?
Oui, si on n'a plus accès au Stade de France ou si on a des conditions au Stade de France qui ne sont pas satisfaisantes et qu'on va aller chercher une fois par an une très grosse jauge, oui, je m'interdis pas cette possibilité. En tout cas, je l'ai dit aux deux candidats au Stade de France, c'est une possibilité
dont on ferme pas
la porte.
Vous pensez à Wembley?
Peut-être pas chez les Britanniques quand même.
Non. On va aller jusque là.
Ok, pour que les auditeurs comprennent bien, évidemment, Florian Grill avait répété fin février que s'il n'y avait pas d'accord, en tout cas assez bénéfique pour le 15 de France, eh bien vous iriez jouer ailleurs. On a parlé province, mais là, ce soir sur RMC, vous nous parlez, pourquoi pas, de la possibilité d'aller jouer à l'étranger. Concernant
Un match, bien sûr, on a bien compris.
Concernant le volet financier, c'est vrai qu'on a parlé, et vous l'avez déclaré en décembre dernier, un déficit d'exploitation de 40 millions d'euros en deux saisons. Comment on arrive à gérer une fédération dans le rouge?
Écoutez, donc c'est 40 millions d'euros effectivement sur deux saisons. Comment on y arrive? En resserrant un petit peu tout, c'est-à-dire qu'on a réduit non pas les staffs des équipes de France, mais un peu le train de vie. On fait des stages plutôt à Marcoussis, on peut réduire un peu l'hôtellerie sans que ça a un impact sur la performance sportive. On gère beaucoup mieux la billetterie et donc on a, je vous l'ai dit, plus de 2 millions d'euros de recettes additionnelles sur la billetterie qui impacte directement le résultat, simplement parce qu'on a coupé dans les invitations. On réduit les dépenses qui ne sont pas utiles. On est centimier. Moi, je suis un patron de PME. Et puis je suis issu du rugby amateur où on fait attention à chaque euro investi. Donc peux vous dire que quand on passe tout en revue, il y a plein d'endroits où on peut économiser. On réserve aussi les billets d'avion beaucoup plus à l'avance. On mutualise les 13 équipes de France. S'il y a 13 équipes de France et chacun négocie un petit peu dans son coin, enfin, il y a plein de leviers pour améliorer. Et puis, on a entrepris un grand plan et un grand passage en revue de toutes les dépenses à la fédération. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des marges de manœuvre et on est en train de toutes les mettre en œuvre. Et petit à petit, on va y arriver.
Oui, c'est pas facile de faire une campagne en parlant d'économie, Florian, parce qu'en fin d'année, il y a les,
oui, mais
y a
moi,
les élections.
Non, mais moi, je m'en fiche, je vais vous le dire très clairement. Moi, ma responsabilité, elle est vis-à-vis du rugby. Il y a des gens qui m'ont dit ouais, on fait pas une campagne en faisant 10 millions d'euros d'économie. Eh bien si, on va faire une campagne en faisant 10 millions d'euros d'économie parce que c'est l'intérêt supérieur du rugby. Voilà. Et puis la campagne, écoutez, moi je pense que les gens, vous savez, les clubs, ils entendent très bien ça, hein. Ils comprennent très bien, tout le monde sait très bien d'ailleurs que le rugby d'une manière générale dépense un peu l'argent qu'il a pas. Il y a les pauvres clubs territoriaux qui tirent le diable par la queue, et puis il y a les clubs nationaux, il y a les clubs fédéraux, il y en a qui ont déposé le bilan parce qu'on dépense une masse salariale qui est trop importante par rapport à ce qu'on est capable de porter. Et je pense que la Fédé se doit d'être exemplaire. Les 10 millions d'euros d'économie, il faut qu'on les fasse. Et il faut aussi que tout le monde comprenne qu'il faut dégonfler un petit peu la bulle du rugby parce qu'on n'est pas le football, on n'a pas vocation à le devenir et on a vocation à être sur une économie raisonnable.
Marion, justement, sur les élections.
Absolument. Donc Wilfried, effectivement, a parlé de la campagne pour les prochaines élections. Les prochaines élections qui auront lieu le 19 octobre prochain. Vous pensez pouvoir la gagner, cette campagne, cette nouvelle élection, président ?
Oui, oui. Enfin bon, il y a du temps. Hein. On n'est pas encore en campagne. Moi, je sillonne le terrain depuis 6 ans ou 7 ans et je l'ai fait en dehors des périodes d'élection. Donc, je le fais tout le temps. C'est mon plaisir. J'adore ça. Moi, je suis issu, encore une fois, des clubs amateurs. Donc, je continue et voilà, nous on a 4 axes qui sont très clairs pour la fédération. On veut faire gagner nos 13 équipes de France, on veut augmenter le poids de la fédération à l'international, on veut trouver des sous pour les clubs amateurs autour de ce que j'appelle la fédération à mission. On l'a déjà trouvé avec Total Energy qui nous a donné 1 million d'euros et on est peut-être en train de boucler un accord avec Adidas pour équiper toutes les équipes féminines avec des jeux de maillots. On a d'autres dossiers en cours, puis on veut relancer le nombre de licenciés. Voilà, donc c'est notre boulot, c'est ça, on le fait, je pense qu'on le fait bien. Tout avance, les planètes sont en train de s'aligner. J'ai pas de. Voilà, il y aura une campagne, tant mieux, ça, c'est la démocratie. Après, est-ce que je suis inquiet ? Non.
Non, mais on a entendu au début de votre réponse le oui, bon, est-ce que je vais la gagner ? On n'a pas senti une sérénité, président. C'est moi, je me fais des idées.
Oh, vous vous faites des idées. Non, je suis très déterminé.
C'est juste l'interprète, il interprète tout, vous savez.
Non, c'est de l'interprétation. je suis un second ligne besogneux, résilient. Non, ça me gêne pas du tout de faire campagne. Et bon, après, je ne sais pas qui seront les candidats en face de nous. Il y a plusieurs noms qui circulent, des grands noms d'ailleurs. Didier Cordonnier, oui. Pourquoi pas. Il est bienvenu. Enfin, moi, j'ai pas de problème. Mais bon, nous, on fait le boulot. On laboure le terrain et surtout, on fait le travail pour les clubs amateurs. Et je pense que les clubs amateurs, ils le voient bien.
Justement, Wilfried.
Oui, Didier Codornou devrait être candidat face à vous, c'est ce qu'on entend, c'est la petite musique qui monte, chef de file d'opposition, soutenu notamment par le camp de Bernard Laporte, par Claude Haché, vous savez très bien les gens aussi qui peuvent y avoir derrière, par Serge, on parle de Serge Blanco, de Jean-Claude Scrella aussi avec eux. Ouais. Est-ce que Florian, vous avez l'impression d'être un peu seul contre tous là, sur quand on met tous ces noms ensemble et qui se.
Oui. Bon, écoutez, moi, je Abdelatif Benazi, Jean-Marc Lhermé, et puis toute l'équipe qui m'entoure, des gens qui sont moins connus, mais qui sont issus du rugby amateur comme moi, et qui ont fait des preuves depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans à s'occuper du club du quotidien. Alors, franchement, je suis pas inquiet. Voilà, je pense que vous savez, d'abord, les grands noms, j'en ai aussi, si tant est que ce soit si important que ça, mais moi, je pense surtout, ce qu'il faut, c'est les compétences.
Mais c'est pas ce que je disais, c'est que ça, il y a une agrégation de gens de plusieurs courants, quoi, ce que je voulais dire.
Oui, bah écoutez, mais tant mieux, c'est la démocratie. Il faut que les clubs parleront, et puis on verra bien.
Une dernière chose à voir avec vous, président, c'était il y a quelques mois, c'était le 19 novembre dernier. C'est pas le moment qui va vous faire le plus plaisir de l'interview, hein, je vous le dis tout de suite. C'est Bernard Laporte qui était notre invité, il venait d'arriver à Montpellier, et il vous accusait à demi-mot de ne pas avoir assez pesé dans les instances lors du Mondial, notamment sur l'arbitrage. On réécoute cet extrait, parce que je voudrais avoir votre sentiment tout de même sur cette sortie qui a pu surprendre.
Le rugby français en avait besoin, mais là encore une fois, je pense que certaines personnes ont tout cassé. Mais on le dira le jour qu'il faudra. Certaines personnes ont tout cassé. On aurait dû être champion du monde. J'ai travaillé pendant 6 ans avec eux. Je sais de quoi je parle. J'étais vice-président, moi, pendant 2 ans et pendant 4 ans au board avec eux. D'accord ? Mais ça a toujours été comme ça. Mais là, c'est vrai qu'on avait l'impression de ne pas jouer une Coupe du Monde à la maison. C'est une évidence.
Florian Grill.
Bon, écoutez, je vais pas commenter. Il y a pas de. Sincèrement, ça sous-entendrait que, en fonction de son rôle, on a un impact sur les arbitres. Je ne crois pas à ça. Moi, je défends trop les arbitres. Les arbitres sont indépendants. Un arbitre peut se tromper comme un joueur peut se tromper, mais il n'y a pas d'impact sur les arbitres. Ou alors, j'ai été très bon sur les derniers matchs du tournoi Destination, puisqu'il semblerait que cette fois-ci, la pièce soit de temps en temps tombée de notre côté. Non, mais je ne veux pas commenter ce genre de propos.
Non, mais Florian, vous comprenez qu'en fait, ce qui nous interloque, c'est qu'effectivement, il y a bien évidemment deux discours différents. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans un débat, c'est d'avoir des opinions différentes. Et moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est cet énervement finalement qu'a Bernard Laporte et la façon dont il l'exprime, parce que c'est moi qui ai réalisé cette interview, donc je le sentais vraiment par rapport à vous, où effectivement on a l'impression d'avoir plus de recul, plus de calme. Est-ce que les arguments qu'il décrit, vous arrivez à les entendre, ou pour vous, vous êtes vraiment, il n'y a aucun pourcentage de vous qui est d'accord sur ce qui vient d'être déclaré?
Non, bon, il n'y a aucun pourcentage de moi qui est d'accord sur ce qui vient d'être déclaré. J'ai pas de. Voilà, non, mais chacun. Écoutez, moi j'ai beaucoup de respect pour Bernard Laporte, entraîneur. Il est d'ailleurs en train d'avoir des résultats avec l'équipe de Montpellier, et tant mieux. Je suis d'origine montpelliéraine, donc moi je. Voilà, mais. Mais
vous
après.
Êtes derrière lui.
Bon, voilà, d'une certaine manière. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait envie de m'avoir derrière lui. Mais s'agissant de la manière de gérer la Fédération française de rugby et la manière de la présider, etc., on est complètement à l'opposé. Donc voilà. Donc non, je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, mais c'est pas. J'ai envie de dire, c'est pas très grave et c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour développer le rugby dans les écoles. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour aider les clubs amateurs. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour donner des vestiaires féminins, parce qu'il y a un véritable scandale. Il y a des filles qui se changent dans les bus ou qui se changent dans les vestiaires arbitres. C'est ça, les vrais sujets du rugby du quotidien. Le sujet, c'est d'avoir une base solide et pas simplement d'avoir une grosse tête. À force d'avoir un petit corps, la tête de la grosse tête ne pourra plus être portée. C'est ça, la réalité du rugby. Il y a 2000 clubs de rugby en France. Il y a 13 000 clubs de foot, il n'y a pas assez de clubs de rugby. Il faut qu'on crée des satellites d'écoles de rugby sur l'ensemble du territoire, parce que la proximité, c'est le premier critère de la pratique. Donc parlons des vrais sujets, les petites phrases, etc. Ça ne m'intéresse pas.
Avant de vous libérer, direction le Stade Jean-Bouin avec Florian Grill au commentaire. Espagne-Roumanie, le temps que je le score.
35-19 pour l'Espagne.
Merci beaucoup.
À la 63e, j'essaie de progresser. Je sais que c'est ma reconversion qui est en jeu.
Vous voyez que ce n'est pas donné à tout le monde quand même.
Je m'incline devant Wilfried.
C'était une boutade.
C'était très bien. Merci d'avoir joué le jeu et merci pour cette interview, le débrief du tournoi Destination. Merci beaucoup.
Merci.
Florian Grill avec nous en direct dans Bartoli Time. Merci beaucoup, Wilfried. On retrouve les Bleus pas tout de suite. Hein.
Merci, Wilfried.
Non. Ce sera au mois de juillet. Tournée en Argentine. Ce sera deux matchs en Argentine et après la tournée de novembre, on l'a dit. Donc là, retour du top 14 de la Champions Cup. D'ailleurs, les phases finales bientôt. On va vers le printemps maintenant.
Ah oui, tu fais pas que les Bleus. Matchs. Tu vas travailler quand même.
C'est une très belle conclusion.
Allez,
bonne soirée.
Repose-toi bien. Merci Wilfried d'avoir été avec nous et merci pour ce week-end de France-Angleterre. Marion, on se retrouve dans quelques instants. Jean-Louis Tour sera avec nous en direct de Montpellier. On va parler du Paris Saint-Germain. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h. Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet. Marion Bartoli.
19h51 de retour. C'est le moment. C'est la sonnerie, c'est le moment.
Exactement, c'est le moment. Vous n'avez pas honte, la régie, de couper comme ça Marion Bartoli. C'est le moment de vous inscrire pour vivre l'expérience RMC au Parc des Princes et gagner vos places pour PSG FC Barcelone mercredi 10 avril prochain. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant. Vous envoyez PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16. Encore quelques minutes avec Marion Bartoli. Et Marion, on a parlé de l'Olympique de Marseille et cette défaite à Rennes 2-0. C'était il y a quelques instants la première réaction de Jean-Louis Gasset. On l'écoute.
Il reste 8 matchs. Donc quand on aura récupéré, on va jouer les 8 matchs à fond et on fera les comptes après. Et il nous reste 2 matchs minimum en Coupe d'Europe avec beaucoup d'espoir parce qu'on on reçoit le second match et on sait qu'on l'a vu contre Villarreal. Quand on joue devant nos supporters, on est capable de faire des grandes choses. Donc il faut qu'ils continuent à nous faire confiance même s'ils sont déçus. Mais on va donner le maximum.
Le maximum combatif. Donc Jean-Louis Gasset, c'était en conférence de presse il y a quelques minutes. Toutes les informations sur rmcsport.fr. Le prochain match de l'OM, ce sera dans deux semaines face au Paris Saint-Germain. Justement, le Paris Saint-Germain, quel enchaînement
bon
en
Jean-Louis.
Déplacement à Montpellier avec Jean-Louis Tour au commentaire. Salut Jean-Louis.
Salut Marion, salut JC.
Salut tout le monde. Oui, je sais qu'il a été aussi impressionné par cet enchaînement. Je le connais, son petit rire. Est-ce l'année ou jamais? On va parler de Ligue des Champions avec vous juste avant Jean-Louis. On a les compositions d'équipe ou pas?
Ah oui. Ah bah, bien sûr qu'on a les compositions.
Alors, vous donner un petit biscuit, alors, une petite information.
Un petit biscuit. Bah, Mbappé est titulaire. Voilà l'information.
Mbappé est titulaire
parce que Dembélé est forfait puisqu'il a eu un problème de tympan dans l'après-midi. Donc Mbappé, Colomouani, Barcola, les trois attaquants du PSG.
Parfait. Merci en tout cas. Un tympan percé. Et donc il a dû déclarer forfait. Exactement, ça te fait sourire, mais ça doit faire un petit peu mal de la part d'Ousmane Dembélé.
Je me demande comment c'est arrivé, c'est ça qui m'a
Parlons
fait.
Rapidement. Bah,
dans l'avion. C'est pas très grave.
Dans l'avion.
Ah, ben bah, voilà.
Ah, ils prennent pas le train pour Rennes
Ou le bus, non.
Ou le char à voile. C'était une ancienne version. Bref, parlons de la Ligue des Champions avec vous. Vendredi, le PSG, vous le savez, a été gâté par le tirage au sort des quarts de finale, même s'il faudra affronter le FC Barcelone.
Gâté,
et en cas de qualification,
les
Parisiens retrouveraient en demi-finale soit l'Atlético de Madrid, soit le Borussia Dortmund. Aller en finale, est-ce que ce serait un exploit? Pour toi, Jean-Louis, c'est non. Pour toi, Marion, c'est oui. Marion, pourquoi oui?
Bien évidemment, c'est oui. Combien de finales de Ligue des Champions le PSG a joué? L'histoire du club, une, et c'était dans une Champions League avec un seul match pendant le Covid. Donc bien évidemment, c'est déjà que ça sera un exploit. Et puis d'ailleurs, on l'a très bien entendu dans les propos de Nasser Al Arafi qu'on a interviewé récemment. Il s'attendait pas du tout avec l'équipe qu'il avait créée cette année, avec énormément de nouveaux joueurs extrêmement jeunes qui n'avaient pas du tout l'habitude de jouer ensemble. Le départ aussi qu'il a Mbappé, de se dire qu'il allait éventuellement aller jouer une finale et être champion. Donc bien évidemment, ça sera un exploit. Après, là où je vous rejoins, et je pense qu'on va finir par se rejoindre avec Jean-Louis comme d'habitude, c'est qu'effectivement, le tirage, je pense, permettre cet exploit, même si je ne vais pas parler d'un certain 8 mars 2017, je n'ai pas envie de me faire des ennemis, mais ça resterait quand même un exploit. Mais effectivement, cet exploit est envisageable au vu du tirage au sort.
Jean-Louis.
Non, moi c'est le mot exploit qui me pose problème. Un exploit, c'est quand vraiment tu fais une performance inattendue. Là, ce serait une performance notable. Vu le nombre de finales, ça y a pas de problème.
Champion,
un exploit, ça veut dire que tu sors City, le Real, que tu sors une équipe comme ça. Là, tu l'as pas sur ton calendrier. Donc, pour moi, ce serait quelque chose d'important. D'autant qu'on n'a pas vu le PSG non plus depuis le début de saison, capable de sortir des grosses équipes. Donc, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Mais de là à dire exploit quand t'as mis 300 millions sur ton dernier mercato. Alors, certes avec moins de stars, mais avec quand même des joueurs achetés très cher. Bon, tu restes quand même parmi les équipes du top 8 européen. Là, en plus, tu as un tirage favorable. Ça me paraîtrait pas dingue d'arriver en finale. Ce serait notable parce que c'est rare, mais pas un exploit, non.
Marion, la semaine dernière, la CRLFI, à ton micro, disait qu'on n'a pas de grandes attentes pour cette année. Il a peut-être révisé son jugement, non, après le tirage au sort?
Écoute, il faut un petit peu lire entre les lignes, mais je pense qu'effectivement ce tirage au sort était extrêmement attendu à Doha. Je pense qu'il y a eu un énorme souffle de soulagement en se disant qu'il n'y avait pas City en face, qu'il n'y avait pas le Real. Mais encore une fois, méfiez-vous, faites attention s'il vous plaît. Oui, bien sûr, c'est pas le Barça d'avant, c'est pas le Barça de la remontada. En plus, ils joueront même pas au Camp Nou d'ailleurs, ils vont jouer dans un autre stade. Donc bien évidemment que les voyants sont plutôt au vert, mais le PSG nous a montré quand même par le passé quand sur Manchester United avec l'équipe B, personne ne s'y attendait. Donc attention, ne vous enthousiasmez pas trop vite. Moi je vous dis que ces matchs sont largement pas gagnés d'avance, que l'Atlético ça joue quand même au football et qu'il va falloir aller les gagner, les matchs aller-retour, et qu'il y a quand même 4 matchs à les jouer avant d'être en finale de Ligue des Champions. Donc je pense que à la fois le PSG et les amateurs du PSG sont effectivement contents de ce tirage au sort, mais se méfient quand même très très largement de ce qui peut se passer au vu encore une fois des scénarios précédents et ce qu'était capable de faire PSG dans des campagnes auparavant.
Bon, avant ce match face à Barcelone, il y a un match ce soir de Ligue 1, clôture de la 26e journée, un match à Montpellier. Présentation de la soirée avec toi, Jean-Louis. J'imagine que vous allez débriefer ces compositions d'équipe et donc ce Kylian Mbappé titulaire ce soir.
Exactement, c'est l'info de la compo. On y reviendra avec Jeannot Rességui, avec Julien Landry, avec Kevin Diaz qui nous accompagne tous les dimanches. Gros plan également sur Beraldo. Il est titulaire en défense centrale. C'est clairement une des pièces maîtresses de Luis Enrique. Il est arrivé depuis 3 mois seulement. On vous en parlera et puis on reviendra sur toute l'actu quand même de la journée. Antoine Comboiré à Nantes, Marseille qui perd à Rennes. On évoquera tous ces sujets bien sûr.
Non, ça tu l'évoques pas. Tu skips. fait un peu.
Oui. Là, je pensais qu'on en parlerait de l'effet Jean-Louis Gasset qui marche pas contre les grosses équipes. Enfin, bon, non.
Non mais tu vois comment il est. Tu vois comment il est. Et après, tu veux qu'on s'entende. Mais comment tu veux qu'on arrive à s'entendre? C'est impossible.
Comme ça, quand il est 19h57, remettre une pièce dans la machine. Bravo.
Bien évidemment, parce qu'il sait que je suis obligé de rendre l'antenne.
Exactement.
C'est moche. C'est tellement petit, tu sais.
La grande soirée.
Je me vengerai.
Montpellier, Paris Saint-Germain, coup d'envoi 20h45 et prise d'antenne de Jean-Louis Tour dans quelques instants sur RMC. C'est la fin de cette émission. Mais Marion, on va se retrouver la semaine prochaine. Je vais te faire quelques infidélités. Je ne serai pas là. Je serai en vacances, mais je penserai très fort à toi. Mais
Non mais ça change pas. J'ai entendu cette musique assez fréquemment, à peu près toutes les 6 semaines, non, c'est ça à peu près. On va faire le point avec Geoffrey, le producteur de cette émission. En tout cas, je pensais passer la main avec un immense plaisir, surtout lui faire compliment à Jean-Louis Tour, mais vu qu'on voulait terminer cette émission, il est hors de question que je lui fasse des compliments. Donc, je vous dis, bien évidemment, pour vous, mes chers auditeurs d'RMC, de passer une excellente fin de dimanche soir. Je vous retrouve avec un immense plaisir la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et puis, vous l'aurez compris, d'ailleurs, du coup, sans Jean-Christophe Drouet, mais je vous promets, ce sera quand même une belle émission.
Bien
Allez,
sûr.
Bonne soirée à tous. Au revoir.
Au revoir.
Creo que hay dos partes
RMC, 19h20, Bartoli Time.